Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 18 juillet 1936, à la suite des troubles et des violences consécutifs à la victoire du Frente Popular en Espagne, le général Franco déclare l'état de guerre. C'était là le début de la guerre d'Espagne, une guerre civile soit, mais une guerre civile dont l'enjeu s'internationalisa rapidement. L'une en face de l'autre, deux conceptions, deux logiques, deux Espagnes inconciliables. D'un côté, une exaltation révolutionnaire menée surtout par des volontaires, mais aussi un monde marqué par une division politique entre principalement marxistes et anarchistes. De l'autre côté, une armée avec un encadrement de qualité et des troupes entraînées, mues par une idée de croisade, l'armée nationaliste, que fut réellement cette guerre d'Espagne? Peut-on comprendre cet affrontement sans céder à la passion et au politiquement correct? Quels furent aussi les lendemains de cette guerre? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir avec l'historien Bartolomé Benassar. Bartolomé Benassar, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Espagne dont vous êtes un spécialiste. Vous êtes à l'origine un moderniste, mais depuis quelques années, vous êtes penché sur l'histoire contemporaine de l'Espagne. Alors, je renvoie nos auditeurs à votre biographie de Franco, rééditée dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Franco, c'était également le thème d'une conférence que vous avez donnée ici à l'Académie des sciences morales et politiques en février 2003, une conférence que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site asmp.fr. Alors, c'est aux mêmes éditions Perrin que vous publiez ce mois une monographie consacrée à la guerre d'Espagne et à ses lendemains, donc aux éditions Perrin. Alors, Bartolomé Benassar, la guerre d'Espagne et ses origines sont très complexes, on le sent bien évidemment à la lecture de votre livre. À quand faut-il remonter dans le temps pour percevoir l'affrontement de 1936?
Il faut remonter sans doute très loin, puisque plusieurs historiens espagnols ont même développé, à tort ou à raison, le thème des deux Espagnes, qui font remonter au moins au XVIIIe siècle. C'est un parti qu'on peut adopter. Si on ne le faisait pas, il faudrait au moins se placer à la fin du XIXe. À partir de cette date, en effet, à plusieurs reprises, des conceptions différentes de l'Espagne se sont faites jour. Elles se sont notamment exprimées après la fameuse guerre de 1898, au cours de laquelle l'Espagne, qui s'affrontait aux États-Unis, a perdu les vestiges de son empire colonial à la suite d'opérations militaires extrêmement courtes et qui se sont traduites notamment par la destruction totale de la flotte espagnole. Cet épisode a engendré dans le pays, et notamment dans l'armée, des frustrations très profondes, et a surgi alors le thème qui a continué à être évoqué tout au long du premier demi-siècle, du régénérationnisme. L'Espagne était en quelque sorte dégénérée, il fallait qu'elle se régénère.
Est-ce comparable un peu à la situation en France en 1870 ? Et une recherche de réforme intellectuelle et morale, pour reprendre le mot de Renan?
Il y a un peu de cela, mais avec peut-être une différence, c'est que les Espagnols se sont jugés, et à mon avis avec raison, plus bas que ne l'étaient les Français en 1870. La guerre de 1898 a agi comme un révélateur d'un état de décadence qui était profond et qui affectait un petit peu tous les aspects de la vie nationale. Par conséquent, il faut remonter assez haut, et c'est pourquoi ce livre commence, d'ailleurs à la demande de l'éditeur qui, je dois le dire, a eu raison, par une quinzaine de pages qui s'appelle « Préhistoire d'une tragédie », qui sont destinées à montrer justement comment, au fond, la tragédie qui se déclenche en 1936 a été rendue presque inévitable par la non-réponse à toute une série de questions fondamentales qui s'étaient posées en Espagne et dont on peut, en quelque sorte, résumer, si vous voulez, la série, je m'exprime mal là, par en formulant quelques pistes. Par exemple, le problème de la solution de la question agraire, fondamentale et rendue fondamentale par le fait que l'immense majorité des paysans espagnols sont des brassiers, des gens sans terre. Par exemple, le problème, pour changer complètement de perspective, de l'organisation nationale, centralisée ou décentralisée, avec en particulier l'insistance de ce qu'on a appelé les régions périphériques ou les nations périphériques ou les nationalismes périphériques tels que la Catalogne, le Pays Basque ou même la Galice et leur prétention à s'ériger en quelque sorte en région ou en nation dotée d'un statut spécial. Par exemple encore, les rapports entre l'Église et la nation. Laïcisation de la société ou maintien de cette société dans un encadrement de type clérical. Simples exemples. Et faudrait-il encore ajouter, bien entendu, puisque la question va être fondamentale dans le déclenchement et dans la conduite de la guerre, la place de l'armée dans la nation. Place de l'armée qui, en effet, a pu apparaître comme excessive, puisque une bonne part des mouvements politiques qui éclatent au cours du XIXe siècle et qu'on appelle des pronunciamentos sont souvent, ou sont presque toujours, réalisés par un général ou par l'appel à un général. Alors, toutes ces questions sont restées sans solution. Et finalement, peut-être parce qu'il y a un dernier élément capital qui est pour ce qu'on pourrait appeler la faiblesse de l'État. L'Espagne de 36 est un pays dont l'État est faible, dont les institutions, en apparence parfaitement définies, n'ont qu'un contenu et qu'un pouvoir de prégnance assez limité.
Alors donc, vous le dites, nous sommes en 1936, c'est la Seconde République. Il va y avoir, entre les élections de 1936 et l'éclatement de la guerre, des violences, des oppositions dans les rues, etc. Quel est l'élément qui va, en quelque sorte, lancer la guerre?
Vous dites, entre les élections de février et le 10 juillet, des violences, et vous pourriez remonter plus loin, au plus haut, puisqu'au fond, dès la proclamation de la République le 14 avril 1931, l'ordre public a été à plusieurs reprises mis en cause. D'ailleurs, il l'avait été avant la proclamation de la République, puisqu'il y avait eu des périodes extrêmement difficiles. Mais il est certain que pendant les 5 ans de durée de la République, cet ordre public a été à plusieurs fois troublé de façon extrêmement grave, par exemple par la tentative de conspiration du général Sanjurjo en 1932, et plus encore par la révolution de 1934, d'octobre 1934, particulièrement dramatique dans les Asturies, donc au nord-ouest, mais aussi en Catalogne avec la proclamation intempestive, il faut bien le dire, de l'État catalan. Par conséquent, donc, on peut remonter haut, mais il est vrai que ces troubles se sont en quelque sorte aggravés dans la période qui sépare les élections de février du coup d'État ou du mouvement militaire du 18 juillet 1936. Alors, vous dites, quel est l'élément qui a déclenché ? Les réponses sont variées. Évidemment, on peut dire que ce qui a déclenché le coup d'État, c'est le double assassinat dans les jours qui ont précédé le 18 juillet. D'une part, de l'un des officiers des gardes d'assaut, donc qui était une formation créée par la gauche, par la République, Et la réponse qui a été l'assassinat de Calvo Sotelo, un dirigeant de la droite espagnole parmi les plus musclés. Mais en fait, ce serait une fausse réponse parce que le mouvement du 18 juillet a été préparé bien avant. Donc, si vous voulez, les deux événements que je viens de signaler ont eu ont joué un rôle important dans la date exacte du déclenchement, mais ils ne sont pas responsables de ce déclenchement puisque c'est dès le mois de mars 1936, donc si vous voulez un mois après les élections, que commence à s'organiser sous la direction du général Mola la conspiration qui va finalement aboutir, aboutir au mouvement du 18 juillet.
Alors, on entre, si vous le voulez bien, Bartholomé Benassar, directement dans cette guerre. Il s'agit d'une guerre de mouvement. Quelles en sont ces grandes étapes ?
Il y a, je dirais, 5 étapes, je crois qu'on peut, on pourrait en réduire à 4 ou augmenter à 6, mais enfin, en gros, c'est cela. La première étape est en effet une guerre de mouvement qui commence commence au sud par le franchissement du détroit par l'armée du Maroc et qui se poursuit par une rapide progression de cette armée du Maroc et de la Légion depuis l'Andalousie jusqu'aux abords de Madrid aux abords de Madrid ou de Tolède. Et en même temps, une autre guerre, un autre mouvement qui lui part du nord, part de la Navarre. Grâce à l'existence de forces militaires non négligeables qui sont les riquettes, c'est-à-dire les volontaires navarrais, qui sont bien entraînés, qui sont des combattants de premier ordre, et qui se dirigent, eux, vers Madrid, après avoir bouclé la frontière française, et notamment, par conséquent, après s'être rendu maître des villes d'Irun, puis de Saint-Sébastien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la bataille de Madrid. Ça, je crois que... Bataille de Madrid qui va durer de novembre 36 à la fin février 37 et qui est marquée par deux opérations successives. D'une part, ce qu'on pourrait appeler les attaques frontales, qui cherchent à enlever Madrid par l'assaut. D'autre part, les tentatives d'encerclement marquées en particulier par la bataille du Jarama et puis par la bataille de Guadalajara. En une troisième étape... est constitué par ce qu'on pourrait appeler la liquidation du Nord républicain. C'est-à-dire que le général Franco, après l'échec des batailles de Madrid, décide d'abandonner provisoirement la capitale et de liquider ce que les républicains appellent la tâche loyale du Nord, constituée par le Pays Basque d'une part, Santander et les Asturies. Et l'avantage pour les franquistes de l'opération, si elle réussit, c'est de se rendre maître d'une partie importante du potentiel industriel de l'Espagne, notamment de la région de Bilbao, qui est le cœur de la sidérurgie espagnole, et d'autre part du bassin houillé des Asturies. Cette étape va essentiellement... concernait la période de février-juin 37. La quatrième étape correspond aux tentatives républicaines de prendre l'offensive. Ces tentatives républicaines se déroulent toujours de la même façon. Elles commencent par un succès initial des républicains et ensuite elles se terminent par la contre-offensive victorieuse des franquistes. Alors, nous avons d'abord eu la bataille de Brunete tout près de Madrid, puis une bataille très très importante qui est la bataille de Teruel, à la fin de l'année 37 et au début de l'année 38, qui est une bataille particulièrement dramatique à cause du froid polaire qui la marque, puisque les combattants se sont battus par des températures de moins 15, moins 16 au-dessous de zéro. Et enfin, dernière grande bataille de ce genre, celle en quelque sorte au cours de laquelle l'armée républicaine, qui est devenue ce qu'on pourrait appeler une armée populaire, qui a été constitué progressivement, tente le tout. Tente, si vous voulez, le maximum, c'est ce qu'on a appelé la bataille de l'Èbre, qui se déroule de l'été à l'automne 38, au cours de laquelle il y a lieu un affrontement, un peu à la limite, qualifié de gigantesque, en tout cas au point de vue humain, entre deux armées qui se battent jusqu'à la limite de leurs forces, qui manifestent l'une et l'autre un héroïsme extrême. Là encore, les Républicains prennent l'initiative, ils passent l'Èbre, ils réussissent à s'emparer d'une région importante, mais pas suffisante pour pouvoir aller jusqu'à la mer et couper l'élan franquiste. Et la cinquième partie, c'est la Lali, en quelque sorte. C'est d'une part la déroute de l'armée républicaine en Catalogne avec le passage de la frontière française, mais en même temps, les mouvements qui se passent d'une part à Madrid, d'autre part à Alicante, c'est-à-dire qu'à Madrid se produit une rupture de l'unité républicaine qui avait déjà été éprouvée en 1937, puisque le général Casado se rompt avec le gouvernement et obtient la formation d'un gouvernement républicain qui exclut les communistes, dans l'espoir de parvenir ainsi à des négociations avec le général Franco, parce que la guerre est considérée, à juste titre d'ailleurs, comme perdue. Et en même temps, les quelques forces qui se trouvent dans le Levant se partagent en deux. Les uns réussissent à s'en aller en avion, notamment tout l'état-major communiste, et les autres sont pris dans la nasse d'Alicante. Quelques-uns réussissent à partir en bateau, les autres sont faits prisonniers dans la nasse d'Alicante. Voilà, en gros, les cinq étapes que l'on pourrait distinguer.
Alors, nous allons sortir de cette chronologie pour aller vers l'histoire thématique et pour évoquer cette guerre d'Espagne sous l'angle une guerre d'Espagne, laboratoire du XXe siècle, tel que vous la décrivez dans votre livre, Bartolomé Benassar. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de La guerre d'Espagne et ses lendemains aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans une minute.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Bartolomé Benassar, auteur du livre La guerre d'Espagne et ses lendemains, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Pardon. Alors, Bartolomé Benassar, nous avons évoqué toute cette chronologie qui me semble très, très importante. Venons-en à l'histoire thématique et à ces fameux deux camps, républicains d'un côté, nationalistes de l'autre. Alors on a souvent tendance, ou l'historiographie a eu tendance à voir les choses sous le prisme fascisme d'un côté contre démocratie populaire de l'autre. Est-ce que la réalité n'est pas plus complexe que cela ?
Vous avez tout à fait raison, la réalité est beaucoup plus complexe. Cette vision qui en effet a été trop souvent véhiculé est une vision terriblement réductrice qui ne correspond pas du tout à la réalité. À tel point d'ailleurs que quand on dit, lorsqu'on parle de république d'un côté, on en utilise un mot dont la définition varie à l'infini et qui, dans le cas qui nous occupe, ne livre rien de la réalité. Parce que la république espagnol, à partir du moment où le mouvement du 18 juillet a été déclenché, est une république qui n'a cessé de se transformer, de se métamorphoser. C'est au début une république qu'on pourrait qualifier d'une république de gauche, de la gauche bourgeoise. Bon, comme ça, que Hassania, par exemple, est un représentant de celle qu'on peut, un représentant de cette tendance de gauche républicaine bourgeoise. Mais dès le mois de septembre, nous passons à une république qui est dominée par les socialistes, avec la participation des communistes et bientôt avec la participation des anarchistes. C'est-à-dire que la République s'est radicalisée et qu'elle est déjà une République dont l'orientation révolutionnaire est absolument et certaine. Et cela est d'autant plus vrai que c'est le moment où se produisent, à partir d'ailleurs d'emblée, dès le mois d'août, collectivisation de type anarchiste, c'est-à-dire qu'il y a un passage à l'acte de l'utopie qui est assez remarquable et qui donne lieu à des tentatives sans doute vouées tôt ou tard à l'échec, mais qui ont un contenu émotionnel, pourrait-on dire, et en même temps expérimental, tout à fait passionnant, et qui mérite d'être sorti de l'oubli dans lequel il a été plongé par une sorte de complicité curieuse entre, d'une part, les vainqueurs et les vaincus, et notamment entre, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, d'un côté les franquistes, et de l'autre, si vous voulez, la gauche socialo-communiste qui a fait, en quelque sorte, l'impasse sur l'anarchisme. Donc, c'est vrai, nous avons affaire. Et alors, ensuite, cette expérience se transforme elle-même à cause de la montée en puissance du Parti communiste espagnol, qui au début était une toute petite formation, s'est développée énormément, tout simplement parce que l'Espagne républicaine était devenue dépendante des armes soviétiques, qui étaient la contrepartie de l'or espagnol envoyé à Moscou. Or, tout à fait considérable, puisque les réserves d'or de l'Espagne étaient les quatrièmes du monde en 1936. Peu à peu, sous l'effet, si vous voulez, de ce développement, se tend à se substituer au système pluraliste des débuts de la République, et même de l'époque du gouvernement Largo-Cavalière, un système de type stalinien, même si les communistes restent minoritaires à l'intérieur du gouvernement. Mais s'ils sont minoritaires à l'intérieur du gouvernement, ils ont en revanche réussi à s'emparer de toute une série de leviers de pouvoir, notamment dans le domaine de la police et du service de renseignement. C'est ainsi que le CIM, le Servicio de Investigación Militar, service de recherche militaire, qui a été créé par les socialistes, est en fait passé entièrement sous la coupe des communistes. Et donc, on a, du début à la fin de la guerre, finalement, une série de solutions, une série de situations tout à fait différentes, dont le tournant est, en mai 37, la fameuse guerre civile dans la guerre civile, qui a opposé à Barcelone, au cours d'une semaine vraiment tragique, les communistes et les anarchistes. Et dont, par exemple, George Orwell a rendu compte dans son célèbre hommage à la Catalogne, que l'on retrouve en partie dans un film récent, celui de Ken Loach, Terre et Liberté, par exemple. Bon. Alors, voilà. Mais, de l'autre côté, bien que l'hétérogénéité soit moindre, elle existe quand même. Alors, elle existe quand même, mais elle est beaucoup moins visible parce que le général Franco a pratiqué une opération au forceps qui est revenue à la constitution d'une unité, peut-être fragile et peut-être factice, mais enfin réelle, qui lui a donné en tout cas la possibilité de diriger réellement l'Espagne nationaliste, dont il a été élu en octobre 36, à la fois dont il a été élu chef d'État, tout en étant également nommé généralissime.
Alors nous allons revenir sur le franquisme. Ce qui ressort souvent du conflit en Espagne, c'est cette violence qui est omniprésente. Alors, il y a ce fameux livre de George Mossé de l'historien américain George Mossé sur la brutalisation des sociétés européennes. Et il place la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale dans ce processus de brutalisation des sociétés européennes. Est-ce que la guerre d'Espagne a une unicité ou est-ce qu'on peut la replacer également au même titre que le conflit de la première, des conflits de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale dans ce mouvement de brutalisation des sociétés européennes?
Elle peut s'y intégrer dans ce mouvement de brutalisation des sociétés européennes. Elle peut s'y intégrer, mais avec, si je puis dire, un coefficient de multiplication. Coefficient de multiplication qui vient du fait qu'il s'agit d'une guerre opposant les gens d'une même nation, ou en tout cas considérée comme telle.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent.
On trouverait des précédents. Si, on trouverait des précédents dans les guerres de religion.
Mais aussi sanglants.
Mais voilà, qui atteignent un tel degré de violence et d'autre part, en même temps, une telle durée, non. Alors, bon, c'est sûr qu'on pourrait évoquer la guerre provoquée par la révolution soviétique, bon, bien sûr, ou bien les guerres de religion en remontant beaucoup plus haut, mais atteignant un tel degré de violence, une telle durée, non, parce que tout de même. Il faut se rendre compte que les deux camps ont procédé à des massacres qui ont porté sur des dizaines de milliers de personnes, sans parler de ceux qui ont suivi la fin de la guerre. Bon, ça c'est encore autre chose, parce que là aussi il y a un épisode tout à fait particulier, c'est que la fin de la guerre s'est prolongée de façon tout à fait étonnante par une répression, non pas de quelques mois, mais qui s'est étalée sur quelques années. La violence de cette guerre a fait dire à certains analystes que, en quelque sorte, s'était conjugué une guerre de classe et une guerre de religion. Et je crois que c'est assez vrai. Guerre de classe, c'est sûr. On peut pas, puisqu'il suffisait en quelque sorte, quelquefois, d'être habillé en bourgeois, de porter une cravate pour se faire massacrer, ou de porter une salopette et d'avoir les mains calleuses pour se faire massacrer également. Ou bien le statut social. Un instituteur pouvait être assassiné dans le camp franquiste parce qu'il était instituteur, et un prêtre pouvait être assassiné par la République parce qu'il était prêtre. Bon. Donc il y a une guerre de classe, et puis il faut y ajouter à cette guerre le fait que c'est une guerre de religion. Certains auteurs, notamment des auteurs non espagnols, ont souligné, en particulier certains auteurs anglo-saxons, ont souligné que, au fond, la guerre d'Espagne était apparue comme une sorte de guerre de religion, parce que, notamment, par exemple, les anarchistes avaient opposé à une sorte de messianisme à un autre, à la vision, en quelque sorte, du catholicisme romain, traditionnel d'une partie au moins de l'Espagne. Et c'est vrai que beaucoup ont fait remarquer à juste titre que les utopies anarchistes étaient tout à fait porteuses de ce messianisme et qu'elles se définissaient beaucoup moins par leur contenu économique que par l'idée de changer la vie et de changer l'homme en même temps. Et je crois que c'est assez juste. Comme évidemment il s'agissait d'imposer ces formules de façon extrêmement rapide, eh bien, la violence a atteint des niveaux tout à fait exceptionnels. Et surtout, c'est tout à fait remarquable, il faut bien le souligner, surtout pendant les 6 premiers mois de la guerre, en allant un peu plus loin, on peut aller jusqu'au printemps 1937, mais vraiment, pendant les 9 premiers mois de la guerre, le 4/5 des victimes civiles, ou des victimes qui ne sont pas le fait des combats, sont tuées pendant les premiers mois de la guerre.
Alors, il y a un autre aspect de ce laboratoire du XXe siècle qu'est la guerre d'Espagne, c'est la guerre psychologique. Et dans la guerre psychologique, vous retenez deux éléments, d'une part la terreur, et d'autre part l'épopée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces questions?
Oui. Il est certain, par exemple, que la terreur a été jugée comme un moyen d'action dès le début de la guerre par les gens qui ont déclenché le soulèvement, les proclamations du général Mola absolument évidentes à ce propos, et déclarations du général Mola qui sont reprises par certains généraux opérant dans le sud, par exemple Caipo de Liano à Séville, dont les proclamations radiodiffusées visent à répandre la terreur. Et à cette terreur, en quelque sorte proclamée ou annoncée, si je puis dire, répond une terreur peut-être plus spontanée encore que on puisse en discuter, qui est l'œuvre des comités qui prennent le pouvoir un peu partout dans l'Espagne républicaine à mesure que l'État ou les institutions de cet État s'effondrent. Et on a donc, en quelque sorte, deux terreurs, j'allais dire simultanées ou successives. J'ai pris l'exemple du cas de Malaga comme emblématique de cette succession, puisque à la terreur rouge et noire du début de la guerre, lorsque le mouvement échoue à Malaga et que les socialistes et les anarchistes prennent le pouvoir, répond, lorsque Malaga est conquise par les nationalistes, en février 37, une seconde terreur, une terreur blanche cette fois, avec l'utilisation pratiquement des mêmes pratiques. Voilà, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire à propos de terreur. Et alors, d'autre part, en effet, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension épique, que l'on trouve dès le début de la guerre et que l'on trouve dans les deux camps, puisque dans un cas, par exemple, des nationalistes, on exaltera l'épisode de Tolède, où non pas les cadets, puisqu'ils étaient en vacances, il ne restait que 8 ou 9, mais les gardes civils et un certain nombre de volontaires ont résisté victorieusement, jusqu'à l'arrivée des secours franquistes, aux assauts républicains. On pourrait trouver, il y a un autre exemple dans le cas franquiste, c'est le fameux, mais enfin, il est très peu connu, c'est l'épisode du sanctuaire de Santa Maria de la Cabeza, près de Jaén, où il y a aussi quelque chose, un épisode assez extraordinaire sur le plan épique. Et puis, du côté républicain, c'est la défense de Madrid. C'est la défense de Madrid qui paraît au début ne pas pouvoir résister à l'attaque des troupes franquistes. D'ailleurs, les généraux insurgés sont persuadés qu'ils vont pouvoir fêter Noël à Madrid, en tout cas. Et ils se heurtent à une résistance acharné, qui est stimulé par l'arrivée des premiers contingents des brigades internationales qui ont afflué en Espagne, et aussi par l'arrivée des premières armes nouvelles qui viennent d'URSS et qui sont constituées par des tanks et des avions généralement de très bonne qualité.
Est-ce que cette internationalisation fait partie de ce mythe, et est-ce que même les brigades internationales font partie de ce mythe de la propagande?
J'entends bien. La réponse n'est pas aussi évidente qu'il paraît. C'est sûr que les brigades font partie du mythe, et à juste titre, dans la mesure où les brigadistes se sont recrutés dans un nombre considérable de pays, puisqu'il y a eu des brigadistes venus du Canada, venus des États-Unis, le bataillon Abraham Lincoln, par exemple, des brigadistes venus d'Angleterre, des brigadistes très nombreux venus de France, puisqu'ils ont constitué plus du tiers du total, des antifascistes allemands et italiens également, des slaves, des gens venus de quantité de pays. Mais en même temps, cela s'est fait sous l'inspiration communiste et avec une très bonne organisation des communistes, même si tous les brigadistes, ils s'en font, n'étaient pas communistes. Mais enfin, on a pu calculer qu'à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié des brigadistes étaient quand même communistes ou sympathisants, très, très, très évident. Donc, d'un côté, il y a cette pluralisme des origines. Et des origines sociales également, parce qu'on voit, il y a de tout, il y a des professeurs d'université, il y a des prolétaires du bâtiment ou d'autres métiers qui viennent se battre ensemble en faveur de l'Espagne républicaine. Et il y a des gens qui viennent des pays qui sont déjà passés sous le contrôle de mouvements fascistes, comme des Allemands et des Italiens. Donc, le mythe est justifié et en même temps, il est en quelque sorte récupéré et organisé.
Alors, c'est ce que nous verrons, cette récupération, notamment avec le rôle de l'URSS, après Bartholomé Benassar. Une seconde pause. À tout de suite.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Bartholomé Benassar, auteur du livre La guerre d'Espagne et ses lendemains, paru aux éditions Perrin. Alors, nous évoquions Bartholomé Benassar, l'URSS. Quel est le rôle de l'URSS? François Furet, dans Le passé d'une illusion, disait que l'Espagne était plus près du modèle de l'État ou de la République soviétique que du fascisme. Vous citez de votre côté la thèse de l'anglais Bernard Bolotin, qui affirmait, lui, que le soutien soviétique avait pour but de permettre au Parti communiste espagnol de s'emparer du pouvoir. Alors, qu'en est-il exactement?
La thèse de Furet est justifiée en partie dans la mesure où on la définirait dans le temps. En effet, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est tout à fait frappant dans le cas espagnol, c'est que de 36 à 39, on passe par plusieurs systèmes. Alors, la thèse de Bernard Bolotin, qui est, je crois, américain, mais bon, est qu'en effet, c'est ce qu'il a appelé le grand camouflage, les communistes avaient, en quelque sorte, préparé une prise de pouvoir progressive sous le masque d'une révolution de caractère pluraliste. Bon, si on se réfère aux documents devenus disponibles par l'ouverture des archives soviétiques, et que Bernard Bolotin n'avait pas eu à sa disposition, ni d'ailleurs François Furet, ben ils ont raison. Les rapports d'André Marty, d'ailleurs, de Dimitrov, de quelques autres.
L'ouverture des archives soviétiques ont révélé des...
Ah oui,
des
oui, il y a une publication de documents qui ont été traduits par l'université de Yale, qui sont absolument extraordinaires, que j'ai beaucoup utilisé, bien entendu, et qui montrent en effet que ce plan a existé, mais qu'il était conçu comme devant se dérouler dans le temps et en passant par l'étape du Front populaire tel que l'Union soviétique l'avait également conçu dans le cas français. Il fallait, en tout cas cela est évident, il fallait donc éliminer les ennemis les plus évidents de l'URSS et en quelque sorte des soviets, et ses ennemis les plus évidents, c'était les trotskistes et les anarchistes, tout autre qui naturellement sont considérés comme étant tout à fait d'accord avec les fascistes, puisque on raconte que dans l'Espagne franquiste, les anciens anarchistes adhèrent à la phalange, etc. Bon. Simplement, il faut tenir compte du fait que, selon les moments, la stratégie soviétique se modifiait et qu'à partir du moment où les Russes ont signé avec les Allemands le pacte germano-soviétique, la stratégie qui avait été conçue au départ est devenue presque sans objet et du coup l'Espagne a perdu de son intérêt. Et on voit très bien en effet, dans la dernière partie de la guerre, disons à partir si on veut de la fin de l'année 38, l'URSS se désintéressait progressivement du cas espagnol, rappeler ses agents, qui vont d'ailleurs être généralement liquidés, parce qu'ils en savent trop, puis ils se sont battus avec des Américains, avec des Anglais, avec des Occidentaux, etc. Ils risquent d'être influencés par le combat en commun qu'ils ont mené sur le front espagnol. Et par conséquent, il y a donc, si vous voulez, une sorte de désintérêt que l'on retrouve d'ailleurs dans la manière dont l'URSS, qui avait remarquablement accueilli les enfants russes au départ, se désintéresse d'eux à partir du moment où, en quelque sorte, l'Espagne républicaine perd la guerre.
Oui, effectivement, c'est un point que vous évoquez dans un de vos chapitres, l'exil des enfants. Passons, si vous le voulez bien, au camp d'en face. Vous avez insisté tout à l'heure sur l'hétérogénéité du groupe, du groupe des franquistes. Comment peut-on qualifier le franquisme? Est-ce que finalement le franquisme n'est pas lié simplement à un franco qui divisait pour mieux régner sur la phalange, les catholiques, les monarchistes?
Cela sans aucun doute. Mais en même temps, il y a eu une mystification dans le camp franquiste qui est la mystification de la croisade.
Alors, qui est l'auteur de cette mystification?
Cette idée de la croisade eût été complètement délirante au début de la guerre, lorsque le fer de lance de l'armée franquiste était constitué par des morts, par des Marocains musulmans. Dont les chefs, comme Mola par exemple, n'avaient des convictions religieuses que très relatives, en tout cas pas. Et Franco lui-même, au fond, était catholique, mais certainement pas animé par l'esprit de croisade. Alors, le terme de croisade a été en fait dû à, si vous voulez, a été utilisé par des évêques, par plusieurs évêques. L'évêque de Vitoria, l'évêque de Pamplune, l'archevêque de Valladolid, l'évêque de Tenerife, en fait, etc. Mais il faut dire que l'emploi de ce terme a été facilité par les persécutions religieuses qui se sont abattues sur le clergé dans les provinces qui étaient dominées par la République, et en particulier dans certaines provinces de l'Est de l'Espagne, dans les diocèses, par exemple, de Lérida, de Barbastro, qui sont Barbastro aragonais, Lérida, un diocèse catalan, ou Ségorbe, un diocèse valencien, où les principales victimes ont été constituées par les prêtres et les religieux. Alors, on peut presque dire que, sur ce plan, la République a fourni au franquisme un excellent argument pour donner en quelque sorte, si vous voulez, acquérir une légitimité de caractère, une légitimité idéologique qu'il n'avait pas du tout au départ. Et Franco a très bien compris le bénéfice qu'il pouvait tirer de cette situation. Et à partir de là, il a mis l'accent, bien entendu, sur le caractère religieux du mouvement, enfin, le caractère religieux supposé du mouvement, et sur le terme de croisade est devenu très important. Et ce terme de croisade a eu un succès fou parce que moi, qui ai vécu un an complet en Espagne en 56-57, au moment où le franquisme change de nature, j'entendais des gens très simples souvent, qui employaient de manière la plus innocente la phrase suivante: du temps de notre croisade. Nel tempo de nuestra cruzada. Je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Bon, autrement dit, ça avait été intégré par la population, ou du moins par une partie de cette population. Et cela dit, le caractère effectivement hétérogène du franquisme est également réel, puisque le franquisme comportait d'une part des phalangistes dont le modèle était le fascisme, et qui était volontiers laïque, ou en tout cas n'avait pas de convictions religieuses extrêmement fortes. Il y avait les Requetes, les carlistes, qui au contraire, eux, étaient, si vous voulez, des ultra-catholiques, mais en même temps des décentralisateurs, et qui par conséquent n'appréciaient pas du tout les solutions de la phalange. Il y avait les alphonsistes, qui visaient surtout une restauration monarchique. Et puis il y avait au fond un certain nombre de gens qui étaient des opportunistes, bien entendu. Et alors Franco a utilisé toutes les ressources dont il disposait pour imposer un modèle, imposer littéralement un modèle unique, calqué sur le programme de la phalange, mais en faisant des concessions à quelques autres mouvements. Et ce n'est que peu à peu qu'il s'est éloigné du modèle phalangiste, donc du modèle fasciste, vers lequel le poussait son beau-frère Serrano Sunière, qui était un admirateur du régime italien. Et au contraire, par contre, d'un autre de ses ministres principaux, qui était le comte de Jordana, qui lui était neutraliste et anglophile. Alors voilà, en gros, comment. Donc on a, si vous voulez, dans les deux cas, deux systèmes hétérogènes, mais l'un est beaucoup plus facilement unifié, est unifié avec beaucoup plus de succès, et c'est une des conditions de la victoire franquiste et de la défaite républicaine. Les uns n'ont pas réussi à surmonter leur désunion, qui était profonde, mais enfin, ils auraient pu peut-être y arriver, tandis que les autres y sont parvenus.
Alors, un autre aspect de votre livre, et un aspect très très important, c'est que vous êtes allé dans les régions, dans les archives régionales, pour retrouver la trace des fameux exilés.
Vous voulez dire dans les archives régionales françaises?
Exactement. Qu'en avez-vous retiré? Je relève en fait une phrase. Vous retenez un aspect décevant de cet exil. Vous montrez que les groupes s'organisent, il y a des marchés, on apprend le français, on cherche du travail et on se réorganise politiquement. Et c'est cet aspect décevant, c'est que la réorganisation politique se renouvelle avec les mêmes divisions, c'est-à-dire que la leçon de l'Espagne n'a pas servi.
Voilà, alors ça c'est l'aspect qu'en effet tout avait décevant, c'est le renouvellement des divisions à l'intérieur de la reconstitution des forces politiques, mais je dirais que ça c'est ce qui m'intéressait le moins. Après tout, les palinodies entre priétistes et négrinistes, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'existentiel. Comment les gens avaient vécu, comment ils s'étaient adaptés à leur nouvelle situation, à cette situation de l'exil. Et notamment, comment les femmes et les enfants, qui sont négligés dans la plupart des autres travaux, même très bons, comment les femmes et les enfants avaient vécu, comment ils avaient été reçus dans l'espace français, dispersés dans cet espace, puisque 77 départements français ont été concernés par l'exil. Moi, avec l'aide de ma femme, nous n'en avons exploité que 12, enfin c'est déjà pas mal. Et nous avons été frappés par, si vous voulez, la manière dont, en l'espace de quelques mois, les conditions ont changé, à cause souvent de la conjoncture, et notamment du déclenchement de la guerre mondiale, dans laquelle la France s'est trouvée prise. Mais j'avoue que l'une de mes grandes satisfactions, ça a été la découverte des 50 lettres de ces mineurs des Cévennes, qui, à partir du moment où ils ont trouvé du travail, un travail rémunéré comme celui des ouvriers français, et où ils ont trouvé une chambre, envoie au préfet du département une lettre pour lui demander de pouvoir retrouver leur famille, ramener femmes et enfants, et en mettant leur salaire avec le certificat du propriétaire de la maison qu'ils ont louée ou de l'appartement qu'ils ont loué. Ça, c'est de l'existentiel. Ça, c'est ce qui m'intéressait, parce que c'était véritablement le vécu. Et c'était, si vous voulez, finalement, c'est ce qui restait. Parce que ce qui restait, c'est justement, comment, à partir de ces expériences, ces gens-là se sont, dans une large mesure, et pour la majorité, intégrés dans l'économie française, dans la société française pour laquelle ils ont travaillé. Et certains d'entre eux ont participé très, très généreusement et très fortement à la libération de la France par la suite.
Vous bouleversez beaucoup d'idées reçues, notamment sur l'accueil des Français, et vous montrez que l'accueil des Français n'a pas été si mauvais que cela.
Ben, c'est bien mon avis, sauf dans le cas des camps. Mais ça, je reconnais que les camps qui ont reçu les militaires ont été, c'est vrai, était atroce. Mais
Parlez du mascaré.
Oui, parce qu'il faut tenir compte aussi de la façon dont ça s'est passé en 3 semaines. Et le gouvernement de la République espagnole avait de grandes responsabilités parce qu'il n'avait pas laissé entendre qu'il avait annoncé la défense acharnée de Barcelone qui ne s'est pas produite. Et il avait dit qu'au plus, il y aurait 150 000 personnes. Il y en a eu 480 000 en trois semaines, n'est-ce pas? Mais mis à part le phénomène des camps, je considère que dans les conditions du temps, tous les gens ne disposaient pas d'eau chaude dans leur maison, contrairement à ce que ont l'air de croire les censeurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans les conditions du temps, l'accueil des civils espagnols a été, comme vous venez de le dire, qui n'a pas été si mauvais que ça, et il y a eu souvent des exemples remarquables de solidarité.
Nous arrivons au terme de notre émission, Bartolomé Benassar. Est-ce que dans les mémoires, ce conflit reste avec les mêmes oppositions, ou est-ce que la transition démocratique a apaisé justement ces oppositions?
La transition démocratique, à mon avis, et contrairement à ce que pensent certains, qui sont partisans de ce qu'on appelle la thèse rupturiste, a été une démonstration de sagesse. Cette transition démocratique a permis aux gens d'apprendre à vivre ensemble. À s'accepter avec leurs différences. Et si aujourd'hui on rouvre sans danger majeur les chantiers de mémoire, avec les fosses dans lesquelles ont été ensevelis les cadavres, c'est grâce à la transition démocratique. C'est la transition démocratique qui l'a permis. Car si la transition démocratique n'avait pas eu lieu, il aurait fallu instruire non seulement le procès des franquistes, des anciens franquistes, mais le procès des survivants, de la Terre Rouge aussi, par exemple Santiago Carrillo, pour prendre un exemple très précis, qui était impliqué dans ça. Donc la sagesse était celle-là, la sagesse était celle du silence provisoire de la transition démocratique.
Eh bien, c'est sur ces mots de sagesse, Bartolomé Benassar, que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La guerre d'Espagne et ses lendemains ». Et ses lendemains, comme nous venons de le voir, sont très très importants et quasiment inédits dans l'historiographie. Ce livre a été publié aux éditions Perrin. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.